C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler de temps d'attention et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut à tous. Je croyais qu'on allait parler de chute libre aujourd'hui, mais on peut peut-être faire un combo des deux.
Pourquoi ?
Eh ben notre temps d'attention est en chute libre.
Ah oui, t'as raison, ouais, bah tiens, oui, c'est une transition. Effectivement, c'est en chute libre, hein, rien de nouveau, vous me direz, ben peut-être que si, hein, parce qu'il y a des dernières études qui montrent à quel point les choses se sont accélérées. Eh ben c'est clair, hein, aujourd'hui, l'infobésité, comme on dit, atteint des niveaux records et nous sommes over-sollicités, sauf que ben, notre temps de cerveau disponible, lui, n'est pas extensible.
Alors ouais, comme tu le dis, hein, une étude récente pointe du doigt l'accélération des tendances. Dans une étude publiée par la très sérieuse revue Nature, trois chercheurs allemands soulignent ces phénomènes d'accélération. Les tendances arrivent et repartent de plus en plus vite.
Oui, on vous mettra le lien vers cette étude de la revue Nature qui est très intéressante. On y apprend pas mal de choses effectivement dans cette étude. Alors la première, moi qui m'a surprise, c'est que ils constatent que le vocabulaire évolue plus vite que jamais. En gros, les chercheurs ont analysé la durée pendant laquelle certains mots ou expressions sont restés à la mode dans 100 ans de littérature. Donc ils ont pris Google Books, et puis ils ont compilé 100 ans de littérature, ils ont scrollé tout ça, ils ont vu à quel moment les mots ou les expressions apparaissaient, disparaissaient, en gros quelles étaient les tendances de vocabulaire, et ils ont découvert que les termes à la mode, eh ben, ils étaient utilisés dans les livres pendant 6 mois en moyenne au 19e siècle. Alors je sais pas c'était quoi hein, les mots à la mode, les expressions à la mode au 19e siècle.
Certes.
Certes, exactement. Il ne restait à la page que pendant un mois au 21e siècle. Donc, voilà.
Eh ben, c'est 6 fois moins.
6 fois moins. Donc, on voit que même sur le vocabulaire, les choses s'accélèrent aussi. Hein.
Alors, cette étude a également relevé un truc qui nous intéresse particulièrement. C'est la durée de vie d'un trending topic, donc d'un thème à la mode sur Twitter. À titre d'exemple, ces chercheurs ont évalué un total de 43 milliards de tweets. C'est pas rien, et analyser les 50 hashtags les plus populaires au monde toutes les heures entre 2013 et 2016. Ils ont calculé donc pendant combien de temps ces hashtags sont restés populaires. Donc c'est un très bon moyen d'évoluer de comment évolue la tendance. Et ils ont découvert qu'en 2013, un hashtag restait dans la liste des 50 hashtags les plus populaires une moyenne de 17,5 heures. Et qu'en 2016, donc 3 ans après, un hashtag restait dans la liste des 50 hashtags les plus populaires, seulement 11,9 heures. Donc il avait perdu 5h30 de durée de vie, en fait, ce hashtag
et
populaire.
Oui. Et oui, c'est vrai, mais ça, on le ressent très vite. Hein. C'est vrai que tu as des hashtags comme ça qui explosent. Alors à la fois, ça va beaucoup plus vite pour monter, et puis à la fois, ça disparaît très vite. Donc on sent effectivement que cette tendance autour de la perte d'attention, elle est notable. Et c'est ça qui est intéressant dans cette étude, c'est que elle s'attache à relever des faits précis, et on peut faire d'ailleurs le même constat nous-mêmes hein, en utilisant Google Trend. Tu connais Google Trend, Camille ?
Exactement, et j'ai déjà dans mes vies passées utilisé Google Trend, et je sais qu'il y a 7-8 ans, on se disait vraiment, bon, tiens, avant de lancer un marché ou quelque chose, je vais aller le taper dans Google Trend, et on voyait vraiment une évolution sur 1-2 ans. Maintenant, ça tombe net, en fait, ça dure très peu de temps, et on le voit très bien.
Ouais, bah, justement, moi j'ai fait un test avec le fameux Hand Spinner, tu sais, ce truc.
Pour les ados.
Ouais, qu'on a vu partout pendant un moment. Hein, cette tendance, elle est arrivée et elle est arrivée très forte et elle est repartie aussi vite quasiment. Hein, parce que si vous faites une recherche dans Google Trend pour Hand Spinner, je vous mettrai le lien vers cette recherche. C'est hallucinant parce que la tendance, elle est arrivée en quelques semaines et elle est repartie en quasiment un trimestre. Donc en gros, en moins de 3 mois, le Hand Spinner était né. Et puis il était mort et enterré. Et c'est ça une tendance. Et on voit qu'effectivement, les choses s'accélèrent de ce côté.
Ça a fait encore plus vite que la vouvouzela, j'ai l'impression, le hand spinner.
Et voilà. Et il n'y a pas que dans le web hein, que le temps d'attention, eh bien, il est en chute libre. Hein. Cette étude, elle montre par exemple un truc très intéressant, c'est que le cinéma aussi est touché. Hein. Donc le manque d'attention, ou du moins la baisse d'attention des publics, des audiences, elle touche aussi.
Ou la surproduction de contenu.
Ou l'infobésité, hein, effectivement. Hein, l'overdose de contenu. Eh bien, par exemple, ils ont constaté qu'il y avait une accélération des sorties de films, hein, et que les sorties de films, le rythme a beaucoup changé. En gros, dans les années 80, un blockbuster, il était travaillé pour engranger des entrées sur plusieurs semaines, hein, limite plusieurs mois, alors qu'aujourd'hui, les sorties de films, elles sont espacées de très peu de temps. On parle de 2 semaines. Hein. Donc avant, on était sur 4 mois en moyenne entre 2 blockbusters, et aujourd'hui, c'est 2 semaines. Donc on sent que le public a envie que ça aille plus vite, et puis globalement, les choses vont beaucoup plus vite.
Hein. L'image du cinéma, elle représente très bien ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou sur le web en général. C'est vrai que les blockbusters, y avait beaucoup moins de producteurs de films à succès à l'époque. Ils pouvaient se permettre d'aller au cinéma avec des gros budgets. Donc forcément, tous les 4 mois, il y en avait un qui arrivait à sortir quelque chose. Il y avait aussi moins d'acteurs. Maintenant, la création de séries génère encore plus d'acteurs qui font encore plus de films. Et on parle même pas des séries, là, d'ailleurs. Donc maintenant, c'est passé à 2 semaines parce que tous ces acteurs-là, c'est pareil, ils ont besoin de bosser.
Et oui, et puis cette baisse du temps d'attention globale, elle est étroitement liée, tu l'as dit, la surcharge informationnelle, hein, l'infobésité. Juste une citation de Caroline Sauvageol-Rialan, qui est maître de conférence à Sciences Po Paris, et qui dit « En 30 ans, l'humanité a fourni plus d'informations qu'en 5000 ans d'histoire. » Voilà, 30 ans, 5000 ans d'histoire. Je pense que dans les 10 ans à venir, on aura fait plus, encore davantage. Donc c'est ça qui est fou, hein, une accélération.
On ne sait toujours pas comment on a construit les pyramides.
Au final, t'as raison, rappelons ça.
Et alors, concernant l'infobésité, il y a infobésité quand le volume d'informations reçues par un être humain dépasse sa capacité productive de traitement de ces infos. Globalement, c'est quand on est saturé, sursaturé, qu'on reçoit plus d'infos qu'on peut en enregistrer ou en traiter, en tout cas.
Ouais, et le résultat de tout ça, c'est ce qu'on appelle le content shock. Hein. Donc, les CM et social media managers qui nous écoutent savent ce que c'est le content shock. S'ils ne savent pas, il faut vite que vous plongiez là-dessus. Hein, le content shock, c'est un terme qui a été démocratisé. Et bien, c'était en 2014 seulement par un monsieur qui s'appelait Mark Schaeffer. Et lui, il a écrit que, selon lui, l'offre de contenu, elle a déjà nettement dépassé la demande des consommateurs vis-à-vis du contenu. En gros, on a beaucoup plus de contenu qui est produit que de contenu qui peut être consommé, d'où cette chute du temps d'attention.
Alors, si vous voulez illustrer ça très simplement dans votre vie quotidienne et dès maintenant, vous prenez votre feed Facebook et vous le scrollez. Et ça peut scroller à l'infini, quoi. À moins que tu aies une vie devant toi pour lire tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y en a beaucoup trop pour être traité.
Voilà, et donc résultat des courses, notre temps d'attention est aujourd'hui inférieur à celui d'un poisson rouge. C'est pas une blague, c'est assez sérieux, hein, puisque il y a 2 ans de ça, il y avait une étude qui avait été réalisée par Microsoft auprès de Canadiens, qui révélait que la multiplication des écrans, les réseaux, etc. Alors ils ont tout mis sur les réseaux sociaux, mais on a appris, hein, dans ce podcast un peu plus tôt, que c'était pas exclusivement sur les réseaux sociaux. Bref, ils ont appris que le niveau d'attention était tellement bas que maintenant on pouvait parler d'une attention de 8 secondes. On était passé de 12 secondes quelques années auparavant à 8 secondes, alors que les poissons rouges, figure-toi, arrivent à tenir leur attention 9 secondes.
Ouais, on dit toujours 3 secondes, c'est complètement fou. Un poisson rouge peut être attentif 9 secondes.
Déjà plus que nous, hein, vraisemblablement. Et donc en 2000, en l'année 2000, le taux moyen d'attention d'un humain était estimé à 12 secondes et aujourd'hui on est à 8 secondes. Donc on voit que les choses vont... Alors après, je ne sais pas où est-ce que ça s'arrête. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de 3 secondes, on peut encore parler d'attention, ou est-ce qu'il faut inventer un nouveau mot pour ça?
Je pense, ouais. Et aussi, il faudrait, pour avoir une étude concrète, il faudrait peut-être mettre des téléphones et des écrans dans le bocal du poisson rouge aussi. Là, on pourrait vraiment faire un battle, parce t'as... que là, on a l'air un peu ridicule.
Oui, t'as raison. C'est vrai que là, les armes ne sont pas égales. Et du coup, on en vient à se demander quels sont les KPI à suivre. Hein. Est-ce que le temps d'attention disponible, c'est pas le nouveau KPI à suivre de près pour se rendre compte si ce qu'on produits, les contenus qu'on propose en ligne, justement, suscitent l'attention. C'est un mot qu'on entend beaucoup, susciter l'attention, mais c'est pas certain qu'on ait toujours les bons KPI pour mesurer ça.
C'est vrai qu'en plus de susciter l'attention, on regarde souvent de très près la rétention, le temps de rétention sur des vidéos, par exemple. Le temps de rétention des auditeurs sur une vidéo, c'est quelque chose de très important, depuis plusieurs années, en tout cas, j'ai l'impression, plus que le nombre de portées qu'il y a eu, sachant que on va perdre les auditeurs en moyenne 98% des auditeurs au bout de 3 secondes ou 4 secondes de vidéo. Et c'est vrai que le temps d'attention disponible, ça peut être super intéressant pour faire le lien entre les deux.
C'est sûr que le taux d'attention, c'est vraiment l'indicateur de la qualité des contenus mis en perspective avec la rareté du temps de cerveau. En gros, on a 8 secondes à saisir dire en moyenne, est-ce que j'arrive à en saisir plus, hein, c'est vraiment ça en gros l'enjeu qui doit être le nôtre maintenant qui produisons et diffusons du contenu en ligne, c'est est-ce que j'arrive à attirer l'attention plus de 8 secondes, à partir de là déjà on peut sortir le champagne, on se dit ouais c'est cool, et puis là-dessus t'as raison, hein, y a quelques indicateurs qu'on peut suivre. Alors t'as parlé du taux de rétention sur les contenus vidéo, ça c'est super intéressant parce que effectivement ça permet de te faire une idée de savoir si ton contenu est parvenu à maintenir l'attention de ton audience.
Hein. C'est un des seuls KPI qu'on a aujourd'hui qui va dans cette direction, qui nous permettent de voir la rétention de l'audience.
Ah oui, on pourrait rajouter quand même peut-être le prendre en compte le taux d'engagement, mais à forte valeur ajoutée, pas le taux d'engagement genre juste qui est de l'ordre de la réaction, hein, les likes, les pouces, les j'aime, les creux, etc. Non, vraiment le taux d'engagement à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire les partages, les commentaires. Là, on sait que a priori la personne, elle a pris un peu plus de temps, en tout cas vous lui avez attiré son attention davantage, donc ça peut être intéressant à suivre comme métrics. On pourrait aussi parler, hein, sur les contenus web, hein, sur les sites web, de nouvelles techno qui arrivent, et là il y a quelques outils intéressants à souligner, hein. Par exemple il y a un service qui s'appelle Chartbrett, je ne sais pas si tu connais Chartbrett.
Ouais, ça propose de mesurer le taux d'attention réel sur le site internet.
Ouais, exactement, et donc Chartbrett c'est un outil qui est utilisé, hein, par des gros médias en ligne, hein, comme le Financial Times, The Economist, etc. Et effectivement, ce que fait Chartbrett, c'est qu'il mesure les mouvements de la souris à l'écran, les comportements de déroulement de la page, etc., les touches pressées, le temps en gros que tu as passé sur telle ou telle zone de l'écran.
Vraiment passé en fait sur le site.
Exactement.
Plus que je laisse un site, je fais autre chose sur mon smartphone et je m'en vais, quoi.
Et voilà, et là-dessus, ils arrivent à tirer là-dessus des métriques sur la qualité de l'interaction de l'internaute avec la page web. Et alors, dans les métriques qui sortent, hein, ils en ont une qui est le temps d'engagement, clairement. Ça s'appelle comme ça et ça mesure le temps que les utilisateurs consacrent activement à l'interaction sur une page. Et puis, ils ont aussi une autre métrique qui est intéressante, c'est le temps d'exposition active. Ça dit combien de temps un lecteur passe sur une partie spécifique du contenu. Je trouve que c'est un super outil, c'est très intéressant à aller regarder.
Je pense que couplé avec un bon UX design du site, ça peut être vraiment... vraiment cool, quoi.
Exactement. On peut imaginer aussi, hein, qu'on attache une attention, qu'on regarde ce qui se passe du côté de ces métriques de stories et notamment les fameuses métriques de savoir si les gens ont passé à la slide suivante ou sont revenus en arrière. Ça, c'est quand même un bon indicateur du temps d'attention que les gens vous ont apporté. Si vous proposez un contenu en story qui dure 15 secondes et que les gens ont cliqué sur suivant, bah, ça vous donne une idée du taux de rétention, hein, quand même, que les gens ont eu sur vos stories. Donc, ça peut être intéressant là-dessus de faire quelques tableaux comme ça, récap de ces stories et se rendre compte si les gens ont switché ou pas et si on a réussi à garder leur attention 15 secondes.
Et tu parles des stories, là, c'est intéressant parce que cet outil justement de taux de clic sur suivant, taux de clic sur précédent, ça existe que sur les stories. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le story qui est le nouveau format qui fonctionne, c'est aussi le seul outil à proposer ce suivi, en fait.
Ouais, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que là, on est un peu aux prémices de l'analytics autour de la story. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est le seul format social media avec la vidéo où, et puis peut-être même avec l'audio, où là où on va pouvoir commencer à avoir une notion du taux de rétention et donc concrètement de l'attention, du taux d'attention de nos audiences. Et ça va devenir une métrique un peu cendrée.
Du taux de rétention de l'attention, parfait.
Non, en tout cas, du taux d'attention. Et c'est vrai que c'est une métrique qui n'apparaît pas pour l'instant ailleurs. Et c'est vrai que sur Facebook, sur un post classique, sur Insta, on va te donner la portée, on va te donner le nombre d'impressions. Mais tout ça, c'est des contenus qui sont quantitatifs. Et quant au qualitatif, c'est-à-dire savoir si vraiment les gens ont maintenu leur attention, si ton post a maintenu leur attention, c'est très difficile d'avoir des notions de ça, sauf dans certains supports comme la vidéo et comme la story.
Et cela dit, c'est pas uniquement pour vendre de la story ou le format story, mais ils sont très bons, hein, les taux de rétention en story. On voit souvent, très souvent sur la dernière slide, qu'on a conservé bien plus que 50%, parfois on arrive même à 90%, hein, même si on a 10 slides de l'audience. Donc non, le taux de rétention est vraiment très bon.
Ouais, ça c'est intéressant, et effectivement peut-être que le format est encore neuf, on verra peut-être que quand on aura aussi une infobésité sur ce format là et que tout le monde y sera, peut-être qu'on verra que à nouveau ce taux d'attention, cette durée d'attention disponible, elle va diminuer et puis qu'il faudra aller chercher d'autres formats à plus fort engagement.
Et je pense qu'on parle d'autres formats, en fait on va vers l'immersion, l'immersivité, je sais pas si ça peut se dire, mais la story c'est ultra immersif, on est en plein dedans, c'est en plein écran et c'est tout comme ces outils de réalité virtuelle qui arrivent très fort aussi. Là, une fois que tu fais le geste de mettre ton casque de réalité virtuelle, tu accepte d'être totalement disponible pour cette expérience.
Bah là, ton temps d'attention, déjà, il est conditionné par le fait que tu mets à peu près 5 minutes pour bien t'installer ton casque. Donc, c'est vrai que déjà...
Sur ton siège, je fais exprès pour la VR, ouais, exactement.
Voilà, les amis, ce qu'on pouvait se dire ce matin sur le temps d'attention qui est donc en chute libre, vous l'aurez compris. Alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous le savez, nous le savons, et puis qu'on a quelques outils quand même. Gardons un œil sur ce qui se passe dans nos audiences. Est-ce qu'on attire suffisamment leur attention? Est-ce qu'on la conserve assez longtemps? Regardez du côté de vos stories, regardez ce qui se passe dans votre temps de rétention sur vos vidéos Facebook. Vous pourrez avoir quelques petites surprises de ce côté-là.
Alors, vous l'avez remarqué sûrement, on a parlé très vite pour voir si votre temps d'attention était suffisant et si vous avez retenu l'intégralité des informations. Alors, n'hésitez pas à venir nous faire un petit
résumé.
On va faire un
test. Ouais, on va faire un test. Ceux qui on aura gardé leur attention jusque-là, c'est-à-dire à peu près quoi, 15 minutes là ?
15 minutes.
Voilà, ouais. 15 minutes. Vous nous dites « poisson rouge ». En commentaire sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, @supernatif.
Et puis bah, d'ici là, on vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve dès demain pour un nouveau Super Daily.
Bonne journée à tous, salut.
Salut, ciao.